Donc ce que nous voyons dans les lectures d'aujourd'hui, c'est l'origine, mais aussi la permanence du combat spirituel dans lequel nous sommes plongés. Derrière toute tentation du démon, il y a une distorsion, il y a un mensonge en fait, une perversion de la vérité. C'est ainsi que Jésus appellera le démon le père du mensonge dans l'évangile de Jean. Et un vrai mensonge, justement, c'est quelque chose de très habile, qui se présente déguisé en vérité, qui part même d'une vérité, pour ensuite la tordre et la pervertir. Nous avons vu la condition originelle de l'homme dans le paradis terrestre, dans le jardin d'Éden, avec la recommandation même de Dieu, recommandation positive de manger de tous les arbres du jardin, qui étaient beaux, qui avaient des beaux fruits, à l'exception d'un seul qui symbolise la limite à ne pas franchir, car, et c'est la seule limite que Dieu voulait que nous ne franchissions pas pour cause, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes créatures. Et le mystère du mal qui préexiste à la création de l'homme, puisqu'il est permis de croire que le choix des anges a précédé la création visible, et que donc le choix de l'ange révolté avec toute la suite de ceux qui se sont agrégés à lui, et donc vraiment à l'origine même, avant la création visible, ce mystère du mal est un mystère absolument redoutable que l'homme ne doit absolument pas approcher et ne doit pas chercher à connaître parce qu'il va forcément y succomber. Et c'est cela que Dieu voulait éviter à l'homme en disant « De cet arbre-là qui te permettrait de connaître le bien et le mal, d'entrer dans ce mystère redoutable de la révolte, de la possible révolte contre Dieu, alors tu n'y toucheras pas. Tu es trop faible, tu es créature. Sinon, tu vas mourir. » Alors le mensonge du démon, vous l'avez entendu, c'est justement, immédiatement, dès sa première parole, il est menteur. Il va pervertir la parole de Dieu, qui avait dit, « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, ils sont à vous, excepté celui-ci. » Alors il va commencer par dire, « Alors Dieu vous a vraiment dit que vous ne pourrez manger aucun arbre du jardin. » Il change un commandement positif, fruit de l'amour surabondant de Dieu pour sa créature préférée, il le change en interdit. Et alors, il instille dans le cœur de l'homme et de la femme le venin du soupçon. Et si Dieu était jaloux, en fait, s'il voulait garder ses prérogatives et m'empêcher, en fait, d'évoluer, de grandir et finalement d'être tout puissant dans ce monde dont je suis effectivement visiblement le sommet de la création. L'homme le voyait bien. Alors vous voyez aussi où commence la tentation. La faute de Ève n'a pas commencé lorsqu'elle a pris le fruit et qu'elle l'a mangé. La faute de Ève a commencé à partir du moment où elle est entrée en dialogue avec une voix étrangère. Elle est entrée en dialogue, c'est-à-dire qu'elle a prêté l'oreille à cette voix qu'elle aurait dû repousser. Nous rappelons ce que Jésus dira en son temps dans l'évangile de Jean sur ses brebis, « Mes brebis écoutent ma voix, elles n'écouteront pas la voix des étrangers, elles le fuiront au contraire. » C'est ce que Ève n'a pas fait. Alors il était trop tard. Une fois entré en dialogue, une fois entré dans une sorte de marchandage ou d'écoute, alors nous ne nous faisons aucune illusion, le malin est immensément plus fort que nous, immensément plus rusé, habile, séducteur, présentons le mensonge comme une vérité. Alors c'est ce qu'il va essayer de faire avec le nouvel Adam. Le premier Adam et la première Ève étaient dans un jardin. Et après le péché originel, le récit d'aujourd'hui ne nous le dit pas. Mais la suite, si nous la lisons, nous le dira. Une fois le péché consumé, alors ils ne peuvent plus rester dans le jardin, ils ne peuvent plus avoir accès à cet arbre de vie qui lui est totalement positif, qui est au milieu du jardin. Ils sont chassés du jardin et ils entrent en exil, symboliquement dans un désert, dans le désert de l'histoire, dans le désert de ce monde, loin de Dieu. Ils sont exilés. Et alors Jésus, le nouvel Adam, Dieu qui s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre exil, justement, l'incarnation c'est cela, il se fait homme prenant en tout notre condition d'esclave, sans commettre lui-même le péché, mais prenant sur lui toutes les conséquences du péché, vient symboliquement nous rejoindre dans notre désert, en allant effectivement dans ce désert de Judée, pour y passer 40 jours, en jeûnant, pour y rencontrer Dieu surtout, car le désert, c'est d'abord le lieu de la rencontre avec Dieu, comme le peuple d'Israël en a fait l'expérience pendant les 40 ans d'exode et de pérégrination laborieuse dans le désert, où Dieu lui a donné la loi, où Dieu s'est fait reconnaître par sa présence symbolisée par la foudre, les tonnerres et les tremblements de terre sur le Sinaï, par la nuée et par beaucoup de miracles, la manne, l'eau qui jaillit du rocher et beaucoup d'autres choses. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, mais c'est aussi le lieu du combat, car c'est le lieu aussi de la révolte contre Dieu. C'est le lieu d'habitation symbolique justement des forces du mal aussi, des forces de désolation, dans la désolation du désert. Et là, Jésus, comme nouvel Adam, va être confronté avec le diable et nous guérir déjà définitivement, en tout cas une première étape définitive de notre guérison et de notre libération, en déjouant les pièges du mauvais et en étant victorieux. Alors que Jésus est vraiment Dieu et qu'il avait le pouvoir de transformer ses pierres en pain, alors qu'en tant que Dieu, il avait fait pleuvoir la manne, cette rosée que les Israélites trouvaient chaque matin et qui était comme une espèce de croûte très, très fine, eh bien il aurait pu. Jésus nous guérit de l'orgueil et de la prétention originelle, de la convoitise originelle, justement en n'exerçant pas sa puissance et en acceptant d'être purement créature, totalement dépendante de Dieu, ne voulant rien recevoir de personne d'autre, ni suggestion, ni aide, sinon de Dieu seul. La dépendance que Adam et Ève avaient refusée, voulant se hisser immédiatement au niveau de Dieu, par convoitise, en mettant la main sur un privilège au lieu de le recevoir progressivement comme une grâce, eh bien Jésus, lui, il va vivre cette patience. Et il ne va pas exercer son pouvoir. De même que, sur la croix, une fois sur la croix, sur le Golgotha, il ne va pas descendre de la croix. Alors que le démon, cette fois-ci, par la médiation de tous ceux qui sont autour de la croix et qui se moquent de Jésus, qui l'insultent, qui l'injurient, qui le provoquent, « Si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix, alors nous croirons en toi. Tu en as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même. » La croix n'est que l'extension de ce qui s'est passé déjà au désert. Donc là, le Fils de Dieu ne va pas exercer sa puissance de Fils de Dieu. Et il ne va pas se donner la nourriture qu'il ne voudra recevoir qu'en temps voulu du Père. Et il répond par la parole de Dieu, la parole qui est une arme redoutable contre l'ennemi. La parole dit « L'homme ne vivra pas que de pain, mais il se nourrira de toute parole venant de la bouche de Dieu. » Alors le démon, qui est quand même décidément très fort, voit que Jésus le combat avec la parole de Dieu. Et alors dans la deuxième tentation, voilà qu'il va faire ce qu'il a fait dans le jardin originel. Il va prendre la parole de Dieu pour la pervertir. Il va amener Jésus très haut sur le pinacle du temple. C'est la deuxième tentation. Il va lui dire, écoute, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi donc en bas. Toi qui cites la parole de Dieu, tu la connais. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume ? Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te garderont pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Donc jette-toi, qu'est-ce que tu crains si tu es le Fils de Dieu ? Cette parole, elle est là. Voilà une belle perversion, justement. Une parole non pas pour honorer Dieu, mais pour tenter Dieu, pour forcer Dieu à montrer sa puissance. Alors Jésus va répondre par une autre parole, et dit une autre parole, dit, il est encore écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Alors le démon va jouer tous ses atouts, la séduction suprême. Il va s'attaquer à l'humanité de Jésus, espérant atteindre ce qui est en tout homme pécheur. Seulement voilà, en Jésus, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de connivence avec le péché. Tout homme pécheur rêve de domination, à cause du démon déjà, qui avait tenté nos premiers parents. Vous serez comme des dieux, vous serez les maîtres. Alors il l'emmène sur une très haute montagne, et ça, dans Matthieu, c'est très important. Beaucoup de choses dans l'évangile de Matthieu se jouent sur la montagne. D'abord la montagne des Béatitudes, où Jésus enseigne la loi de l'humilité. La montagne de la Transfiguration, où Jésus va être transfiguré et du coup montrer effectivement sa gloire, qu'il reçoit entièrement du Père. Et puis la montagne du Golgotha, la montagne où il va être crucifié, il va aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de la soumission en tant que nouvel Adam. Et puis chez Matthieu aussi, après la résurrection, et ça c'est propre à Matthieu, Jésus ressuscité donne rendez-vous à ses disciples sur la montagne en Galilée. Il leur donne rendez-vous et c'est là qu'il va les rencontrer, en tout cas la grande majorité des disciples qui le verront, et c'est là qu'il dira « Tout pouvoir m'a été donné ». Voilà, c'est là sur la montagne, il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », mais parce qu'il est allé jusqu'au bout de la soumission, et le démon veut lui faire prendre le raccourci. Il veut lui donner la gloire sans la croix. Et ça, c'est une grande tentation dans notre monde. Avoir la joie, le bonheur, mais sans la croix, qui est un chemin obligé de purification, de guérison. Et toutes les fausses sciences, les ésotérismes, astrologie et toutes sortes de choses, c'est une manière de mettre la main sur l'avenir, de chercher notre bonheur sans passer par l'humiliation de la croix, sans passer par la porte étroite, sans passer par ce chemin resserré par lequel il nous faut tous passer, parce que Jésus lui-même a voulu y passer et qu'il nous ouvre la route. Alors il l'amène sur une très haute montagne, comme dans l'Apocalypse. Le voyant, Saint Jean, va être amené sur une très haute montagne, mais cette fois-ci par un ange, un bon ange, qui va lui montrer la Jérusalem. Et là, le démon l'emmène sur une très haute montagne et lui montre toutes les nations de la terre avec leur gloire. Il veut le séduire. Il veut lui faire prendre un raccourci. Tu es fils de Dieu, donc ça t'appartient. Demande-moi, parce que pour l'instant, ça m'appartient. Tout est à moi. Mais si tu te prosternes devant moi, alors je te donne tout ça. Quelle terrible perversion. Là encore, une perversion de l'écriture. Perversion d'un psaume en particulier, le psaume 2, où Dieu dit, j'ai sacré mon roi, mon fils, mon roi sur ma sainte montagne d'abord, et ensuite il dit, tu es mon fils. C'est le psaume 2 que je cite, c'est Dieu qui parle. Tu es mon fils, je t'ai engendré, demande et je te donne toutes les nations en héritage. Tu vas les vaincre avec un sceptre de fer. Et le démon lui dit ces paroles-là. Sauf qu'il le détourne complètement, il dit « Demande à moi, puisque c'est moi qui suis maître de tout ça. Et prosterne-toi devant moi et je te le donne. Ces nations sont rendues ton héritage et tu les domineras. » Alors là, Jésus, avec grande véhémence, entre dans le combat frontal et dit « arrière Satan ». Car il est écrit « ce n'est que à Dieu que tu rendras un culte, ce n'est que Dieu seul que tu adoreras ». Alors là, l'ennemi s'enfuit. Jusqu'à l'heure favorable, nous dit un autre évangile, cette heure favorable étant effectivement tous les événements de la Passion, où il va agir très cruellement, mais cette fois-ci à travers une multitude de médiations et d'instruments. Donc Jésus, comme nouvel Adam, totalement soumis au Père, adorant la divinité du Père, la suprématie, la majesté, la gloire du Père, ne veut absolument rien s'approprier. Il est là les mains vides, le cœur ouvert, fatigué par la faim, par le jeûne, peut-être même épuisé, et ne voulant absolument rien d'autre que de recevoir les dons du Père. Ce que Adam et Ève, justement, n'avaient pas fait. Et c'est ce qui va se passer. Après la victoire sur la troisième tentation, alors il nous est dit que les anges le servaient. Le désert commence peu à peu à se changer de nouveau en jardin d'Éden, un nouvel Éden, où l'homme était en compagnie des anges, des kéroubim, avant que les kéroubim soient obligés de les chasser et de garder, de surveiller l'arbre de vie. Donc voilà toute la portée de ce récit aujourd'hui que nous devons peut-être relire dans un véritable acte d'adoration. Je t'adore, Seigneur Jésus, dans ton abaissement, dans ton humilité, car dans le désert, dans la faim, dans l'épreuve, dans le combat, Seigneur Jésus, tu manifestes déjà de façon merveilleuse ce que saint Paul dira dans l'Épître aux Philippiens. Lui, Jésus, qui était dans la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'en est pas emparé en tant qu'homme. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, jusqu'à mourir sur la croix. Alors, fort de cette victoire du Christ, nous aussi, c'est simple, entrons dans ce combat avec lui. Il y a deux antiennes qui sont proposées dans la liturgie du matin pour l'invitatoire. Celui le plus classique, c'est l'antienne du bréviaire, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Mais l'antienne proposée dans un hymnaire latin de Solemne nous dit « Le Christ a pour nous souffert tentation et passion, venez, adorons-le. » Puisons dans la parole de Dieu, continuons nos résolutions de renoncement, non pas comme une espèce d'ascèse un peu extérieure, continuons nos actes de charité, notre ouverture, notre dépouillement pour s'ouvrir à l'autre, continuons nos résolutions de prière, de prendre plus de temps pour la prière, de renoncer peut-être justement à des choses peut-être légitimes, certains loisirs, pour justement nous nourrir de cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Et ainsi, dans l'Esprit Saint, nous pourrons mieux déjouer les pièges du mauvais. Et nous aurons assez de lucidité pour voir aussi les tactiques du diable, pas seulement en nous, dans notre pauvre nature pécheresse, si facilement en proie au péché, mais aussi autour de nous, dans les événements du monde. Et dans notre prière, et dans notre écoute de la parole de Dieu, dans nos sacrifices, dans notre humiliation, dans notre acceptation d'être des créatures aimées de Dieu et sauvées par lui, moyennant cette purification nécessaire, alors nous contribuerons aussi efficacement au salut du monde et à l'évolution des événements. Nous ne le verrons peut-être pas tout de suite. Le mal fait toujours beaucoup de bruit. Le bien est silencieux. Mais n'ayons aucun doute sur l'efficacité salvifique que peut avoir notre manière de vivre le carême dans les événements actuels, du monde, où que cela se situe. Demandons au Seigneur donc la grâce de rester avec lui dans le désert, de le laisser lui-même remporter la victoire en nous avec toute sa tendresse, son humilité, sa patience. Amen.